Chapitre 29e. Jasmin attendait impatiemment mon retour. Il me dit que Madame de Fontrose venait d'envoyer quelqu'un pour me prier de passer chez elle. Je commençai par écrire au comte de Rosembert une courte lettre que je fis porter à la poste, et puis je me rendis chez la baronne. Quand on lui annonça le chevalier de Florville, Madame de Fontrose fit un cri de joie. Elle me conduisit à son cabinet de toilette, m'y plaça devant un miroir, et sonna l'une de ses femmes qui, moins jolie, mais non moins adroite que Justine, en un instant me fit, avec des rubans et des fleurs, la plus élégante coiffure dont une jeune personne ait jamais pu s'enorgueillir. Ensuite, je me vis parée d'une robe de Pékin lilas. On me passa le plus décemment possible un jupon pareil, et pour compléter la métamorphose, mon pied fut enfermé dans un petit soulier du cadre en bleu. Madame de Fontrose alors envoya sa femme de chambre, puis, en me donnant plusieurs baisers, elle voulut bien me dire qu'il y avait peu de femmes aussi aimables que moi. J'allais imprudemment lui rendre et ses propos flatteurs et ses tendres caresses, quand un secourable laquais s'avisa de crier de la porte « Monsieur de Bellecour !» La baronne, craignant que mon père ne pénétrât jusqu'au cabinet de toilette, courut le recevoir et le joignit dans la pièce voisine. « Je viens, lui dit le baron, vous faire des excuses avec des reproches et vous exprimer mes regrets. Hier, il a fallu nous quitter brusquement. J'en ai beaucoup souffert. Et la faute en est tout à fait à vous, baronne. Vous m'avez amené la plus folle petite personne, dite d'une femme charmante, monsieur, pleine d'attrait, de vivacité, de gentillesse, d'esprit. Cela peut être, madame, mais point de mais, interrompit-elle. Cependant, il continua. Je vous avoue que je ne vois pas sans chagrin mon fils embarqué dans une intrigue nouvelle. Il me serait trop cruel de penser que sa femme sera toujours absente. Eh bon Dieu, tranquillisez-vous, baron. Quand elle reviendra, nous lui rendrons son mari. Trop tard, peut-être, il la chérira moins. Et sa Sophie, en vérité, mérite d'être heureuse. Vous voilà. Je vous admire. À vous entendre, on croirait qu'une femme ne peut trouver son bonheur que dans les perpétuelles adorations de son mari, et vous apportez du fond de votre province cette idée de l'autre siècle, que tout bon époux doit bourgeoisement assommer sa femme d'un éternel amour. Et mais monsieur, d'où venez-vous? Comment? Ignorez-vous encore que maintenant un honnête homme ne se marie qu'afin de se donner une maison, un état, un héritier? Et c'est pour cela, madame, que les honnêtes gens dont vous parlez n'ont après quelques années de mariage ni état, ni maison, ni enfants qui leur appartiennent. « Vous êtes, répliqua la baronne en riant, l'homme du monde le plus amusant. Quand vous en voulez prendre la peine, qu'on mette les chevaux, dit-elle à un domestique. « Vous ne dînez pas chez vous ? S'écria mon père. « Non, vraiment, moi qui comptais passer la soirée avec vous. « J'en suis tout à fait désolé, lui répondit-elle d'un ton caressant, mais c'est une chose impossible. « Madame, peut-on, sans indiscrétion, demander où vous dînez ?»« Chez la petite comtesse. »« Y allez-vous seule ?»« Non. »« Avec mon fils ?»« Avec le chevalier ?»« Point du tout. »« Vous riez, baronne. »« Je vous donne ma parole d'honneur que ce n'est pas monsieur votre fils qui m'accompagne chez la comtesse. »« Et qui donc ?»« Une jeune personne dont je ne crois pas que vous ayez entendu parler. »« Vous l'appelez ?»« Mademoiselle de Brumont. »« De Brumont ? Non, je ne la connais pas. » « Vient-elle vous chercher ou l'allez-vous prendre ?»« Mais je ne sais, j'attends. Restez-vous tard chez Madame de Lignol ? Je comptais rentrer de bonne heure pour souper avec vous. »« Vous aviez là, baronne, une excellente idée. »« Et je ferai défendre ma porte. » Continua-t-elle, « si vous ne craignez pas trop l'ennui du tête-à-tête. »« Je crains seulement que le tête-à-tête ne soit trop court, » répondit-il en lui baisant la main. Un domestique vint dire que les chevaux étaient mis. Mademoiselle de Brumont, pressée de revoir sa maîtresse, trouvait que le baron causait trop longtemps avec la sienne. « Oui, ma Sophie, c'est à toi que j'en demande pardon. Faublas rêvait au moyen d'y conduire promptement son père. » Agathe, cette alerte femme de chambre qui m'avait coiffée, voulut bien recevoir un louis d'or et prendre pitié de ma peine. Elle me conduisit, par un petit escalier, dans la cour où je trouvais le carrosse de la baronne. Puis elle se chargea d'aller dire à sa maîtresse que Mademoiselle de Brumont venait d'arriver, mais qu'ayant su que Madame de Fontrose avait du monde, et ne voulant voir personne, elle attendait la baronne dans sa voiture. Ma commission fut exactement faite. Bientôt, je vis descendre Madame de Fontrose. Mon père lui donnait la main. Il jeta dans la voiture un regard curieux, mais j'eus l'impolitesse de me cacher la figure avec mon éventail. Nous partîmes. La baronne, qui riait, me félicita du succès de ma ruse. Elle prit ma main, la serra doucement, m'honora de plusieurs regards bien tendres, et plus d'une fois me répéta que mon père pouvait passer pour un très aimable homme, mais que j'étais bien la plus charmante femme qu'elle eût jamais vue. Cependant, nous avancions. La conversation changea d'objet. Madame de Fontrose daigna m'avertir que la comtesse, sans doute encore très irritée, pourrait d'abord me recevoir assez mal, mais elle ajouta que j'apaiserais cette femme comme on les apaisait toutes, avec des serments, des louanges et des caresses. Monsieur était avec madame quand on nous annonça chez la comtesse. « Oui, ma foi, dit le comte, c'est elle. » Madame de Lignol, emportée par un premier mouvement, se leva d'abord et me tendit les bras. Mais tout d'un coup, agitée d'un sentiment contraire, elle se rejeta dans son fauteuil en criant « Je ne veux pas la voir !» J'allais partir. Madame de Fontrose me prévint cependant. « Je vous la ramène bien repentante et bien désolée. Je vous assure qu'elle brûle de mériter sa grâce. » Sa grâce, après tant d'ingratitude. « Il est vrai, dit Monsieur de Lignol, que mademoiselle s'est permis à notre égard un étrange procédé. Ne restez ici que 2 ou 3 jours, et nous planter là sans rien dire. Il fallait au moins qu'elle avertît madame quelques jours d'avance. »« Qu'elle m'avertit ? » s'écria la comtesse. « Il eût été fort bon qu'elle m'avertît. Monsieur, vous ne savez pas ce que vous dites. On ne doit pas m'avertir, car on ne doit pas me quitter. » »« Ah, pourtant, il faut convenir que mademoiselle était libre. Elle avait le droit de vous demander son congé comme vous aviez le droit de la renvoyer. Mais dans ce cas-là, je vous le répète, on s'avertit mutuellement quelques jours d'avance. Monsieur, vous voulez bien me faire grâce de vos réflexions? Dans un autre moment, elle m'amuserait peut-être. Je vous assure que maintenant, elle me fatigue. » Le comte se tut, je pris la parole. « Madame, je conviens que j'ai quelque tort envers vous, mais les apparences me montrent plus coupable que je ne le suis en effet. Comment ? Vous ne m'avez peut-être pas fait une infidélité ? Et une infidélité de 4 mois ? Interrompit le comte. 4 mois sans nous donner seulement de vos nouvelles. Mademoiselle, madame a raison, cela n'est pas bien. » Il faut aussi plaider un peu pour elle, dit madame de Fontrose. Je sais de bonne part que cette absence de 4 mois lui a paru fort longue, et que si on avait voulu lui laisser la liberté de venir vous voir, elle en aurait de bon cœur profité. Baronne, vous voudriez en vain l'excuser. Vous n'ignorez pas qu'elle m'a trahi. Vraiment, sans doute, reprit monsieur de Lignol, c'est une espèce de trahison. Elle m'a sacrifié. Oui, continua l'époux approbateur. Elle nous a véritablement sacrifiés si elle a été s'établir ailleurs. « Justement, monsieur, s'écria la comtesse, c'est ce qu'elle a fait. « Madame, je me reconnais coupable, mais... »« Vous l'entendez ? » interrompit-elle, en joignant avec transport ses jolies petites mains qu'elle leva d'abord vers le plafond et dont elle se couvrit les yeux et le front. « Vous l'entendez ? Elle a été s'établir ailleurs, elle-même en convient. « Madame, daignez m'écouter jusqu'à la fin, permettez. Elle a été s'établir ailleurs, » répéta douloureusement la comtesse, qui se mit à pleurer. « Elle a été s'établir ailleurs. » « Chez une femme ? » demanda le comte. « Et sans doute, chez une femme, » lui répondit madame de Lignol avec beaucoup de vivacité. « Vous faites des questions ?» Il m'adressa la parole. « Quelle est cette femme chez qui ?»« Que vous importe ce qu'elle est ?» interrompit la comtesse. « Qu'importe en quelle qualité ? » répliqua-t-elle encore. « Est-elle noble, cette femme-là ? » me demanda-t-il. « Oui, noble, » s'écria-t-elle, « comme mon palefrenier. » « Et que fait-elle ? Ce qu'elle fait ? Ce qu'elle fait ? » dit la comtesse, dont la colère allait toujours croissant à chaque interrogation de son curieux mari. « Elle fait des sottises et de mauvaises plaisanteries. » « Et elle s'appelle ?» Madame de Lignol s'écria. « Oh, je ne sais comment elle s'appelle, mais je veux que vous le disiez, mademoiselle. »« Madame, dispensez-moi. »« Mademoiselle, point de mauvaises excuses, je le veux. » « Eh bien, elle s'appelle Mon Désir. » Mon désir, j'en étais sûr, mon désir. Elle a pu me quitter pour une autre. Elle a été s'établir chez une madame de mon désir. » Et la comtesse se remit à pleurer. « La voilà qui s'attendrit, » me dit la baronne. « Elle va se calmer, elle va pardonner. Tombez à ses pieds, mademoiselle, et demandez grâce. » Je me jetai à ses genoux que j'embrassai. Et pendant que madame de Fontrose lui adressait tout bas quelques mots de consolation, le comte me faisait, avec de doux reproches, une paternelle remontrance. « Vous avez l'air stupéfait, mademoiselle, mais il ne faut pas que ceci vous étonne. Aucune affection de l'âme ne m'échappe à moi. Dans votre absence, la belle humeur de madame s'était visiblement altérée. J'ai découvert qu'il y avait un moyen sûr de lui rendre sa gaieté. Je lui ai parlé charade. Aussitôt, voilà madame riant comme une folle. J'ai répété plusieurs fois l'expérience et toujours avec le même succès. Vous en êtes vous-même témoin. Depuis un quart d'heure, elle ne cesse. Et tenez, voilà un redoublement. » En effet, la comtesse recommença de plus belle, et madame de Fontrose ne se gêna plus. Je fus, comme elle, entraîné, et M. de Lignol lui-même ne put voir trois personnes s'égayer de si bon cœur sans se mettre de la partie. Nos bruyants éclats de rire durent être entendus de tout le voisinage. Cependant, quoique mademoiselle de Brumont se pâmât de rire, le chevalier de Faublas ne perdait pas la tête. D'une bouche avide, il pressait les lis d'un bras plus doux que l'ivoire, et d'une main caressante, il serrait doucement les plus jolis genoux du monde. « Pardonnez-lui, » dit à la comtesse, madame de Fontrose, qui, ne s'ennuyant pas de me regarder, ne perdait rien de cette joyeuse pantomime. « Pardonnez-lui, » répéta le mari confident, qui, non content de m'applaudir par des regards et par des signes, se baissa deux fois pour me glisser à l'oreille ces paroles tout à fait encourageantes. « Bon, bon, ne vous lassez pas. Tenez ferme, elle est vaincue. »« Pardonnez-moi, » m'écriai-je à mon tour d'une voix tendre et d'un ton suppliant. « Pardonnez-moi, car je me repens et je vous aime. » « Et moi aussi, je vous aime, » répondit-elle en m'embrassant, « et je vous pardonne, » ajouta-t-elle en m'embrassant encore. « Mais à condition que vous ne verrez plus cette madame de mon désir. »« Oh non !»« Et que vous n'irez jamais vous établir ailleurs que chez moi. »« Jamais. »« En ce cas, je vous pardonne. »« Je vous aime et vous embrasse. »« Et si vous me tenez parole, je vous aimerai et je vous embrasserai toute ma vie. »« Eh bien, » s'écria M. de Lignol, charmé de la joie de sa femme, « puisque madame vous aime, vous embrasse et vous pardonne, je vais aussi vous pardonner, vous aimer et vous embrasser. » Il m'honora de plusieurs baisers. Et moi aussi, dit madame de Fontrose, je vous aime, je vous pardonne et je vous embrasse, car depuis un quart d'heure, vous m'avez bien amusé. Qu'on dise pourtant que des charades ne sont bonnes à rien, reprit le comte d'un air de triomphe. Voyez comme elles nous ont mis tous de bonne humeur, comme la paix s'est faite aussitôt que... La comtesse l'interrompit. À propos de charades, mademoiselle de Brumont, « Savez-vous bien que monsieur n'a pas encore pu deviner la nôtre ?»« Bon, c'est qu'il n'est pas exact, » répondit-il. « Voilà une bonne raison, » s'écria madame de Fontrose. « Comment, mademoiselle, votre charade n'est pas exacte ?» Je lui répliquai en montrant la comtesse. « C'est madame qui l'a faite. »« Oui, » répondit celle-ci, « mais c'est vous qui me l'avez fait faire. »« N'importe, » reprit la baronne. « S'il n'est pas exact, il faut la recommencer. »« Ainsi, monsieur, » dit madame de Lignol, « je puis donc, sans risquer de vous déplaire, m'occuper de ce petit travail-là. »« Eh, bon Dieu, madame, toute la journée, si cela vous amuse. »« Bon, » reprit-elle, « je suis contente. » Je m'en faisais quelques scrupules, parce que je craignais de m'arroger un droit que je n'eusse pas. Mais à présent que vous m'en avez donné la permission, me voilà tout à fait à mon aise. »« À la bonne heure, mais je vous engage à recommencer celle que vous avez ébauchée ensemble, car sûrement je l'aurais devinée si elle avait été bien faite. » « Allons, mademoiselle, point de paresse, point de mauvaise honte. Recommencez cela, faites-la mieux. »« J'y tâcherai, monsieur. »« De votre mieux et le plus tôt possible. »« Tout à l'heure, si madame le veut. »« Non, » interrompit la baronne, « dis non, dis non. »« Aussi bien vous aurez le temps. »« Je compte vous laisser passer ici la quinzaine. » Je crus avoir mal entendu. « Quoi, la quinzaine ?» lui dis-je. « Vraiment, » répondit-elle. « Le terme vous paraît court, je le conçois, mais je n'ai pu obtenir qu'il fût plus long. »« Obtenir ? J'ai tenté l'impossible, mademoiselle, car je savais combien vous désiriez prolonger votre séjour chez la comtesse. Certainement, mais... Mais vos parents sont demeurés inflexibles. On conçoit que je demeurais très surpris de la manière artificieuse et hardie dont la baronne venait de m'établir, pour ainsi dire, malgré moi, chez la comtesse. Le comte, qui n'avait rien perdu de mon dialogue avec Madame de Fontrose, demanda si mes parents demeuraient maintenant à Paris. La baronne répondit qu'ils y étaient incognito, pour des raisons qu'elle savait, mais qu'elle ne pouvait dire. Nous allions nous mettre à table. Je fus placé entre le mari et la femme. De temps en temps, la comtesse passait adroitement sous la nappe une main qui rencontrait toujours la mienne, et mon genou touchait le sien. Aussi, M. de Lignolles se fut-il étonné de nos fréquentes distractions si Mme de Fontrose, toujours attentive et toujours complaisante, n'eût 20 fois relevé la conversation prête à tomber, et 20 fois ne nous eût très habilement avertis de nos imprudences ou tirés de nos rêveries. Au dessert, cependant, il fallut payer de ma personne. La baronne, soit qu'elle voulût me distraire de l'objet dont elle me voyait trop occupé, soit qu'elle prit plaisir à me tourmenter un peu, la baronne s'avisa de me porter un coup plus difficile à parer que tous les autres. « À propos, dit-elle, vous savez sans doute la grande nouvelle, le chevalier de Faublas est sorti de la Bastille. »« Qui, le chevalier de Faublas ? » demanda le comte. « Ne vous rappelez-vous pas l'histoire de ce joli garçon qui, sous des habits de femme, s'est introduit chez le marquis de B ? » ?»« Oui, oui. » « Et l'on a remis en liberté ce mauvais sujet ? Et ce petit garnement ne sera pas claquemuré pour le reste de sa vie ?»«
Comte, vous êtes bien sévère. On dit que c'est un très aimable enfant. »«
Un fief et libertin qu'on aurait dû fouetter en place publique. »
La baronne alors m'adressa la parole.
« Mademoiselle de Brumont ne dit mot. Est-elle de l'avis de monsieur ?»«
Non, madame, pas tout à fait, non. Ce chevalier de Faublas dont vous parlez, je le juge excusable. » S'il est bien jeune encore, à moins qu'il n'ait commis de ses fautes.
Il a fait des horreurs,
s'écria M. de Lignolles. Vous ne savez donc pas son histoire, mademoiselle. Je vais vous la conter.
D'abord, il a quitté les habits de son sexe, et se donnant pour femme, il est entré dans le lit de la marquise de B, presque sous les yeux de son mari.
N'est-ce pas affreux?
Permettez que je vous arrête, monsieur. Ceci ne me paraît pas vraisemblable. Est-il possible qu'un homme ressemble à une femme, si bien qu'on s'y méprenne ?
Cela n'est pas ordinaire, mais cela s'est vu.
Si vous ne me l'assuriez, je ne le croirais pas,
dit la comtesse.
Il faut le croire, répondit-il, car c'est un fait. Au reste, ce marquis de B n'en est pas moins un imbécile avec ses connaissances physionomiques. C'est la science du cœur humain qu'il faut posséder.
Je l'interrompis.
Il me paraît que si vous aviez été à la place du malheureux marquis, ce monsieur de Faublas ne vous eût pas fait sa dupe.
Oh, soyez-en sûr, je n'ai peut-être pas plus d'esprit qu'un autre, mais je suis observateur, je connais le cœur de l'homme, et nulle affection de l'âme ne m'échappe.
Nous savons cela, dit la baronne, mais pour revenir à notre mauvais sujet, je vais un peu vous étonner en vous apprenant qu'il a l'obligation de sa liberté à la marquise.
À Madame de B ? S'écria le comte.
À Madame de B ? S'écria la comtesse avec beaucoup de vivacité. « À Madame de B ? » m'écriai-je moi-même, en jouant l'étonnement.
« À Madame de B ? » répéta froidement la baronne.
« Tout le monde l'assure. »
La comtesse se leva brusquement et m'adressa la parole.
« Quoi ? C'est la marquise ? Il n'y a rien de vrai dans ce que j'avance, » reprit la baronne. « Que Monsieur de Lignolles, homme d'esprit, homme de tête, Monsieur de Lignolles, qui a l'expérience du monde, de la cour, et des femmes surtout, que M. de Lignolles, observateur profond, excellent juge, M. de Lignolles enfin, appelle fable un fait peu commun sans doute, mais qui n'est pas sans exemple, et paraîtra même vraisemblable à celui qui connaît ce siècle de corruption. Voilà ce que je ne conçois pas.
Encore, répondit le comte, faudrait-il que j'eusse particulièrement étudié le caractère de Mme de B.
Tenez, reprit la baronne, je ne veux pour preuve de sa rare capacité que la manière dont elle s'est relevée plus puissante de sa terrible chute. Quand son affaire avec le chevalier de Faublas fit tant de bruit, nous la crûmes perdue. Elle seule eut le courage de ne pas désespérer de sa fortune. Vous dire comment elle persuada à son mari coiffé, battu et mécontent, qu'il n'était pas un sot, je ne le saurais. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, nous voyons qu'ils vivent très bien ensemble. Au reste, c'est là le moindre succès qu'elle s'était promis. Dès qu'elle eut enchanté le bon époux, elle songea à délivrer l'ami charmant. Pour cela, que fait-elle? Monsieur de X, qui avait beaucoup de partisans, parce qu'il jouissait d'un léger mérite et d'une fortune considérable, Monsieur de X, depuis longtemps, était vraiment amoureux d'elle et vainement visait au ministère. La marquise entre dans le parti nombreux qui le porte aux premières places. Après 4 mois d'efforts, elle culbute le ministère, effraie un des concurrents, trompe l'autre, et l'heureux compétiteur qu'elle sert se voit enfin nanti du fameux portefeuille. Alors sa bienfaitrice ne dédaigne pas de devenir son amante. « Vous paraissez étonnée, mademoiselle de Brumont. » « Hélas, oui. La belle victime s'est immolée. Elle a généreusement consommé le grand sacrifice. Ainsi, madame de B retrouve son premier crédit qu'elle augmente encore. Ainsi, le chevalier de Faublas est rendu à la société pour y faire, si nous n'y prenons garde, quelques nouvelles incartades. » Enfin, madame de Fonrault se tut. Et puisqu'elle ne voulait que m'embarrasser, elle eut lieu de s'applaudir de la nouvelle fatale, car je m'en affligeais beaucoup en ne m'examinant qu'un peu. Je ne trouvais guère probable que l'adorateur de Sophie et l'amant de la comtesse fût encore amoureux de madame de B. Cependant, j'entendais crier au fond de mon cœur une voix secrète qui me criait que la marquise aurait dû me laisser en prison. À 10 heures, la baronne sortira pour aller souper avec celui qu'elle appelait mon grand-parent. À minuit, M. de Lignolles souhaita à la comtesse une bonne nuit et un bon sommeil à mademoiselle Brumont. De ces deux souhaits si contraires, un seul devait être exaucé. La comtesse eut bonne nuit, justement parce que mademoiselle Brumont dormit peu. Madame de Lignolles n'avait pas fait défendre sa porte pour tout le monde. Nous reçûmes, dans l'après-midi, la visite de madame de Fontrose qui m'apporta des nouvelles de mon père et celle de la marquise d'Armincourt à qui sa nièce avait mandé le retour de mademoiselle de Brumont. La bonne tante, enchantée de me revoir, me prodigua les compliments. Pénétrée pour moi de la plus profonde estime, elle n'avait point oublié que je réunissais à l'avantage assez commun de tout connaître, le rare talent de tout expliquer, et que dans une circonstance embarrassante, je l'avais puissamment aidée à donner à son Éléonore des instructions de première nécessité. La vieille marquise m'aimait tant et me faisait tant de caresses que je ne pouvais, sans manquer à la reconnaissance, trouver sa visite trop longue. Sur quoi j'observais que la baronne, qui apparemment me jugeait ingrat, s'efforçait par toutes sortes de moyens d'emmener la bonne tante souper chez elle. Quand elle vit qu'il était impossible de l'y décider, elle prit elle-même le parti de rester avec nous. À minuit, nos deux convives se retirèrent. La même jolie femme de chambre qui m'avait habillée s'empressa de détruire son ouvrage, et l'ami de la comtesse redevint son amant. De toute manière, je me trouvais chez madame de Lignolles aussi bien que chez moi. Aussi bien que chez moi, de temps en temps, mais pas toujours. Non, mon père, non. Quoique 2 journées seulement se fussent écoulées depuis notre séparation, je sentais le besoin de vous revoir. Oh, ma Sophie, je brûlais du désir d'aller chez Justine, savoir si madame de B n'avait rien appris de ton sort, et l'idée de tes infortunes empoisonnait mon coupable bonheur.